N'est-ce pas, la première chose à comprendre, c'est justement cette première phrase qui établit le fait et c'est le développement de ce principe-là qu'il prend dans le reste. La chose essentielle à comprendre, c'est ce qu'il établit comme la raison d'être et le principe même de l'existence universelle. N'est-ce pas? Nous commençons ici à la fin du volume. Ce sont les six derniers chapitres. Pendant tout le commencement, il a pris l'une après l'autre toutes les théories expliquant le comment et le pourquoi de l'univers et de l'existence. Il a pris toutes ces théories l'une après l'autre. Il les a conduites jusqu'à leur extrême limite pour expliquer pleinement ce qu'elles veulent dire. Et à la fin, il a prouvé ce qu'elles avaient d'incomplet ou d'imparfait et a donné la solution véritable. Tout cela est comme fini derrière notre lecture, n'est-ce pas? Cela nous aurait pris quelque chose comme 10 ans pour passer à travers tout ça. Et il aurait fallu que vous ayez toutes sortes de connaissances, un grand développement intellectuel pour pouvoir le suivre avec profit. Mais nous commençons au moment où il a prouvé, au point de vue pleinement intellectuel, que ceci est la raison d'être de l'existence. Et il le formule comme ceci, que le mobile central significatif de l'existence terrestre, n'est-ce pas, il ne s'occupe pas de l'univers tout entier, il a pris la vie terrestre, c'est-à-dire notre vie ici sur la Terre, comme une représentation symbolique et concentrée de la raison d'être de l'univers tout entier. En fait, selon de très vieilles traditions, la Terre, au point de vue spirituel profond, a été créé comme une concentration symbolique de la vie universelle afin que le travail de transformation puisse se faire plus facilement dans un espace, pour ainsi dire, réduit concentré, où tous les éléments du problème sont rassemblés, afin que dans la concentration, l'action puisse être plus totale et plus efficace. Alors ici, à cause de cela, il ne parle que de l'existence terrestre, mais nous pouvons comprendre que c'est une existence symbolique. C'est-à-dire qu'elle représente une action universelle. C'est une représentation symbolique, concentrée. Alors il dit que le mobile central, c'est-à-dire la raison d'être de l'existence terrestre, c'est d'éveiller, de développer et finalement de révéler dans une manifestation totale l'esprit qui se trouve caché au centre de la matière et qui, du dedans vers le dehors, pousse cette matière vers un développement progressif qui libérera l'esprit qui travaille du dedans. Alors, dans les apparences extérieures, telles que vous les voyez, vous voyez d'abord le règne minéral, avec la pierre, la terre, les minéraux, qui, pour nous, dans notre conscience extérieure, apparaissent absolument inconscients. Pourtant, derrière cet inconscient, il y a la vie de l'esprit, la conscience de l'esprit qui est complètement cachée, qui est comme endormie, quoique ce ne soit qu'une apparence, et qui, du dedans, travaille pour transformer petit à petit cette matière complètement inerte en apparence, afin que son organisation se prête de plus en plus à manifester la conscience. Et alors tout ce qu'il dit ici, n'est-ce pas, que d'abord ce voile de la matière inerte et si totale que pour un regard superficiel, c'est quelque chose qui n'a ni vie, ni conscience. Quand vous ramassez une pierre et que vous la regardez avec vos yeux ordinaires et votre conscience ordinaire, vous direz, ça n'a pas de vie et ça n'a pas de conscience. Pour celui qui sait voir derrière les apparences, il y a caché au centre de cette matière, au centre de chaque atome de cette matière, il y a caché la réalité divine suprême, qui travaille du dedans, petit à petit, à travers les millénaires, pour changer cette matière inerte en une matière suffisamment expressive, pour qu'elle puisse révéler l'esprit qui est dedans. Alors, vous savez, n'est-ce pas, la progression de l'histoire de la vie, de la pierre, comment, par des espèces successives, tout d'un coup a apparu un rudiment de vie et une sorte d'organisation, c'est-à-dire une substance organique capable de révéler la vie. Mais cette vie dans la plante, entre le règne minéral et le règne végétal, il y a des éléments de passage. On ne sait pas s'ils appartiennent au minéral ou s'ils appartiennent déjà au végétal. Quand on travaille ça en détail, on voit ces espèces étranges qui sont ni ceci ni cela. Plus tout à fait ceci, pas encore tout à fait cela. Et puis, après ce développement-là du règne végétal, où naturellement la vie apparaît, puisqu'il y a croissance, transformation, une plante pousse, se développe, grandit. Et avec le premier phénomène de vie, arrive aussi un phénomène de décomposition et de désintégration qui est beaucoup plus prompt relativement que dans la pierre. Une pierre, si elle est à l'abri du choc d'autres forces, peut durer ce qui nous paraît être indéfiniment. Tandis que la plante suit déjà une courbe de croissance, d'ascension et de déchéance et de décomposition. Mais ceci, avec une conscience extrêmement réduite. Ceux qui ont étudié le règne végétal en détail, ils s'aperçoivent bien qu'il y a là une conscience. Par exemple, quand vous voyez une plante qui a besoin de soleil pour vivre. Les plantes ont besoin de soleil pour vivre. Le soleil représente l'énergie active qui nous fait croître. Alors si vous mettez une plante dans un endroit où il n'y a pas de soleil, vous la voyez toujours qui monte, qui essaye, qui fait un effort pour atteindre le soleil. Dans les forêts vierges, par exemple, où l'homme n'intervient pas, il y a cette espèce de lutte entre toutes les plantes qui vont toujours droit là-haut d'une façon ou d'une autre, dans cet effort pour attraper la lumière et le soleil. C'est très intéressant. Mais même si vous mettez un pot avec une plante dans un cour assez petite, entouré du mur, où le soleil ne vient pas, une plante qui, dans son état normal, est haute comme ça, elle s'allonge et fait un effort pour trouver la lumière. Par conséquent, il y a une conscience, il y a une volonté de vie qui déjà se manifeste. Et petit à petit, avec les espèces qui se développe de plus en plus, vous arrivez encore à un autre passage de transition entre ce qui n'est plus tout à fait une plante et ce qui n'est pas encore un animal. Il y a plusieurs espèces comme ça qui sont très intéressantes. Il y a de ces plantes, par exemple, qui sont carnivores. Des plantes qui sont comme ça, comme une bouche ouverte. Vous jetez dedans une moucherie, et puis elle les avale. Ce n'est plus tout à fait une plante, ce n'est pas encore un animal. Il y en a beaucoup comme ça. Et puis alors vous arrivez à l'animal. Les premiers animaux, oui, c'est difficile de les distinguer d'une plante, il n'y a presque pas de conscience. Mais là, vous voyez toutes les espèces animales, vous les connaissez, n'est-ce pas, jusqu'à celles qui sont des animaux supérieurs, qui, ma foi, sont très conscients. Ils ont leur volonté propre, tout à fait indépendants. Ils sont très conscients et une intelligence merveilleuse. Qui, comme l'éléphant par exemple, vous connaissez toutes les histoires des éléphants, n'est-ce pas, et de leur intelligence merveilleuse. Par conséquent, c'est déjà une apparition très marquée du mental. Et par ce développement progressif, tout d'un coup, cela passe d'une espèce qui probablement a disparu, dont on a retrouvé des traces entre l'animal comme le singe, par exemple, ou en ligne avec le singe de proche, de similaire, si ce n'est pas le singe tel que nous le connaissons, mais c'est déjà un animal qui marche sur deux pattes. Et de là, nous arrivons à l'homme. Mais il y a tout un commencement d'évolution d'homme. On ne peut pas dire qu'il manifeste brillamment l'intelligence. Mais il y a déjà une action du mental, une sorte, un commencement d'indépendance, de réaction indépendante au milieu et aux forces de la nature. Et alors, dans l'homme, il y a toute la rangée jusqu'à l'être supérieur qui est capable de vie spirituelle. Ça, c'est ça qu'il nous a dit dans cette page. Tout ce que je viens de vous raconter, c'est ça qu'il dit là-dedans. Voilà, maintenant, si vous avez une question à poser.
Mais ici, je dis la conscience pose atteint son plus haut point d'intelligence et se dépasse elle-même. Se dépasse elle-même dans l'homme.
Oui, parce que c'est ce que je viens de dire, dans son degré le plus supérieur, l'homme commence à être tout à fait indépendant de la nature. Tout à fait est une exagération. Il peut devenir tout à fait indépendant. L'homme qui a réalisé en lui-même la conscience spirituelle, il y a un rapport direct avec l'origine divine, et littéralement indépendant de la nature, de la force de la nature. Ah, c'est pour calmer nos esprits. Et c'est ça qui nous appelle, n'est-ce pas, se surpasser, c'est-à-dire que l'être, la conscience divine intérieure, cette réalité spirituelle suprême, dans son effort pour développer au fond, il va falloir se taire et finir. Dans son effort pour développer un moyen conscient de manifester, est arrivé à un être qui est capable d'avoir un rapport direct avec lui sans passer par tout le processus de la nature. Maintenant, je crois que nous allons nous arrêter. La suite sera pour la semaine prochaine. Voilà, pas de méditation parce que...